1980. Années 80, l'entreprise récupère les libertaires.
Bien, alors à la main, tout d'abord une question. Page 230, à un moment vous dites « Nous autres libéraux de gauche ». Qu'est-ce que c'est qu'un libéral de gauche ?
Désamorcer toute révolte.
Oui, c'est la question à 100 francs.
La guerre des étoiles, Orange Mécanique, Apocalypse Now. On se convertit au réalisme. Coluche, Thierry Le Luron.
Ah, je perds ma jarretière, regardez, elle est tombée au-dessus du genou.
Ah, je comprends plus. Oh la merde.
Le vent tourne, et Girouette aussi.
Quand on est la grande chaîne de télévision qui est la une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat.
Privatisation de TF1, faiseur de fric, génération Mitterrand.
C'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes.
L'argent est désirable. La pêche, la forme, jouer à la bourse, comme on joue aux billes. Il faut prendre des risques.
C'est la première année que j'investis en bourse. J'ai tout perdu, 80 000 dollars.
Années 80, tout le monde veut passer chez Pivot. Pyramide du Louvre, Action Directe.
Ce n'est pas le gouvernement auquel j'appartiens qui a proposé la libération de Rouillant et de Ménigon.
Simone Signoret, Affaire Grégory, Nouvelle-Calédonie. Reflux de la critique sociale. Toute action mène au Mirador et au Barbelé.
En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Pénétrez dans cet univers musical. Attention, c'est à vous. Super.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2. Arriving from New York.
Les années 70 étaient sexe, les années 80 furent fric. Le fric jusque-là. Le fric, c'est chic, le fric, c'est chouette. Paul Soulizaire était partout avec ses westerns financiers. Le fric. Pas d'autre horizon, il faut s'adapter. Laurent Geoffrin présentait Vive la crise avec Yves Montand, qui se prenait pour Ronald Reagan et faisait l'éloge de Philippe de Villiers et sa petite entreprise. Après les 30 glorieuses, elles furent les 10 désastreuses. Selon François Cusset, que nous retrouvons aujourd'hui, prof à Sciences Po, il est l'auteur décapant de la décennie, le cauchemar des années 80. Serge Halimi est avec nous aussi pour le grand bond en arrière et quand la gauche essayait. Et Frédéric Lordon, économiste hérétique, auteur de La vérité sauvera le monde. Bernard Tapie, ce sera pour une autre fois. Ils sont là tous les trois avec tournevis et pince, monseigneur, pour démonter la décennie. Car attention, l'héritage infernal nous encombre toujours.
soirée du 14 juillet sur Antenne 2, ça démarre dès 20h30 avec une grande soirée de variété. Charles Aznavour, Véronique Sanson, Bernard Lavillier, Elsa, Enrico Macias, Tana Mouskouri, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Coluche, Robert Hossein, la compagnie créole et Mireille Mathieu qui interprète la Marseillaise sous l'Arc de Triomphe. À 21h30, c'est le super show du bicentenaire par Jean-Paul Goude. Le 14 juillet sur Antenne 2, un spectacle comme vous n'en verrez pas avant 200 ans. Antenne 2, toute la passion du spectacle.
À deux, passionnément.
Ça, ça fait envie quand même. 14 juillet 1989, un grand moment de la commémoration de l'histoire, de la mémoire, de la culture. François Cusset, vous étiez heureux ce jour-là.
C'est le devenir publicitaire de la Révolution qui est terminé. Hein. N'oublions pas que la Révolution française est terminée. C'est le slogan de l'année 89. C'est le titre célèbre de François Furet, historien officiel de ce bicentenaire. Donc effectivement, on est en plein délire publicitaire.
Il revient quand même un peu souvent François Furet dans votre bouquin.
Il est quand même...
Acharné un peu sur ce pauvre François.
Il a joué un grand rôle. Il va, avec Mona Ozouf et quelques autres, effectivement organiser, disons, l'ambiance, le paysage idéologique de ce bicentenaire. Il s'agit de relire la Révolution française non plus à la lumière des phénomènes sociaux qui suivront du 19e siècle social ou même de la Révolution russe, mais à la lumière d'une révolution qui a eu lieu quelques années avant, qui est 1776, la Révolution américaine. C'est-à-dire de faire de 1789 une révolution purement politique et pas du tout sociale, et surtout un événement dangereux parce que portant en germe par nécessité la dérive de la terreur, de la guillotine et des années sanglantes de la Révolution. Alors évidemment, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas ça. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la version publicitaire de la chose avec Jean-Paul Goude, publicitaire chéri des Français, proposant effectivement ce défilé incroyable où on a tous les symboles et les clichés de l'histoire de France qui défilent et où on a, je crois, Jessie Norman qui chante la Marseillaise sur un char des Champs-Élysées. On est effectivement en train de...
Un ours qui est censé représenter la Russie parce qu'on fait dans le symbole relativement simple.
Oui, on fait dans la folklorisation et la dérision à la fois, mais l'important c'est de dire quand même que l'histoire est finie.
Oui, ça a été un très grand moment que ce bicentenaire, parce que c'est aussi l'inauguration de la pyramide, c'est aussi l'ouverture du Louvre, c'est aussi l'opéra Bastille. Et donc il y a le sommet qu'évoque François Cusset, qui a un côté assez paradoxal quand même, fêter la Révolution française en présence de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Et pour équilibrer le mauvais effet qui consiste à montrer les chefs des pays riches qui se rassemblent à Paris, François Mitterrand et Jacques Attali avaient décidé de faire aussi un sommet pour les pays pauvres. Et donc, représentant le monde des prolétaires, il y avait le maréchal Mobutu, qui, comme on le sait, était l'un des symboles les plus éclatants des aspirations révolutionnaires de l'époque. Et je crois que quand on parle de la Révolution française, ce qui est intéressant dans cette année-là, c'est que ce qu'on célèbre, c'est surtout les contre-révolutionnaires. C'est avant tout la célébration des Chouans, des Vendéens. C'est la publication d'ouvrages qui insistent sur le coût de la Révolution française. Il y a un livre, je crois, de Cédillo qui s'appelle « Le coût de la Révolution française » et dont le seul objectif, c'est de montrer qu'on aurait mieux fait de s'en dispenser. Et c'est les spectacles de Robert Hossein qui font apparaître la Révolution comme uniquement un bain de sang. Donc c'est une célébration assez paradoxale à bien des égards.
Oui, enfin, c'est de nous dire la Révolution conduit au bain de sang, tout engagement conduit à la Révolution. Ne vous engagez pas, acceptez l'ordre établi une bonne fois pour toutes. C'est ce que vous devez comprendre. Mettez-vous bien ça dans la tête.
Pour reprendre une fois de plus notre ami François Furet, nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons.
Alors, c'est un très bon livre, hein, François Cusset, La décennie, votre bouquin, Le grand cauchemar des années 80. Mais, en 1989, il manque un événement que vous n'avez pas mentionné, c'est la création de La Bas si j'y suis. C'est quand même un sacré moment, parce qu'effectivement, tout tournait mal au cours de ces années 80, et hop, en septembre 89, voilà La Bas si j'y suis. Et en novembre 89, qu'entend-on dans cette émission modeste et géniale, la chute du mur de Berlin.
C'est la Bobby Man.
Serge Halimi ?
Deux choses. D'une part, évidemment, ça permet la réunification de l'Europe. Ça permet à l'Europe de devenir une zone commerciale beaucoup plus large, ce qui n'est pas sans importance. Par ailleurs, moi, j'aimerais dire que je pense que la portée idéologique de cet événement a été surestimée. Et qu'il a fallu, au moment où ce mur s'effondrait, signifier en quelque sorte que c'était la fin définitive de toute pensée alternative à un système libéral et capitaliste, alors même que cette pensée alternative existait dans des espaces qui n'étaient pas ceux de l'Union soviétique et de Berlin-Est.
De la bière, on en a bu pas mal cette nuit, et du vin, et du champagne, ou du schnapps. On s'est enivré, c'est vrai, à Berlin, mais ce qui saoulait le plus, c'était l'air vif de la liberté.
Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur, lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle, la liberté de passer pratiquement sans entrave, d'un côté à l'autre de l'Allemagne. Une foule enthousiaste s'est présentée au point de passage et les redoutables Vaupeau, les gardiens du mur, ont baissé les bras et les armes.
Non, mais François Cusset. Il y a deux commentaires. Il y a d'abord la rapidité quasi hystérique avec laquelle les gouvernants de l'époque, les marchands, les élites économiques se ruent sur cet espace économique nouveau. Je veux dire, le signe peut-être anecdotique mais emblématique de ça, c'est que dès le mois de janvier 90, donc deux mois après la chute du mur, l'agence leader de la publicité anglaise, Saatchi & Saatchi, propose de louer des espaces du mur à des annonceurs, sachant que c'est un espace qui effectivement est un espace a priori public, donc, et que c'est l'espace le plus filmé de la planète à ce moment-là. Donc moi j'en fais effectivement un peu le signe. Ils vont tous déchanter, c'est-à-dire que ceux qui crient à la victoire de la démocratie et à la preuve définitive qu'elle est donc nécessairement liée au marché vont déchanter très vite, puisque dès 90, le dit bloc de l'Est va être secoué par des tensions nationalistes, xénophobes, antisémites, qui donneront la guerre en Yougoslavie et d'autres problèmes, et qui donneront surtout là aussi une casse sociale énorme, puisqu'il y aura des couches enrichies et des couches appauvries. L'autre aspect, lui, plus nostalgique, plus mélancolique de tout ça, c'est que s'entendre dire que la révolution est terminée, qu'elle soit française ou qu'elle soit communiste, et que l'horizon de l'émancipation sociale est révolu, nous oblige à aborder cette question de l'émancipation sociale comme quelque chose dont il faut faire le deuil, comme un objet morbide. Et cette morbidité, pour moi, enveloppe la décennie 90. Notre communauté, notre dernier lien à tous, social, est lié à ce deuil impossible. Et ce dont on fête l'enterrement, avec le démantèlement du bloc de l'Est, eh ben, désolé, on ne pourra pas l'enterrer, et c'est ce qui déterminera notre avenir. Et c'est, moi, je pense que c'est effectivement ce qui va se passer dans la décennie qui suit, quoi.
Et qui, maintenant, fera peur aux riches ? C'était une réflexion faite au moment de la chute du mur de Berlin. Frédéric ?
Cet événement de la chute du mur, qui a été peut-être l'un des plus surjoués et des plus surexploités par le néolibéralisme, ouvre une période historique de gigantesque expérimentation en vraie grandeur, alors là je déborde sur les années 90, qu'on connaîtra sous le nom de transition vers le marché des économies post-socialistes, laquelle expérience en vraie grandeur est en fait une affirmation absolument retentissante de la doctrine même du libéralisme. Puisque nos chers conseillers du FMI, les banquiers, les économistes de la Baird, dont Jacques Attali est le président, débarquent en Russie avec pour tout corps de doctrine l'idée que libérons les prix, réinstituons la propriété privée, laissons jouer les forces bénéfiques de la concurrence, et le capitalisme avec tous ses bénéfices va surgir dans l'instant. Évidemment, quel sera le résultat ? Une panade absolument effroyable dont on peut donner l'ampleur au travers d'un seul indicateur qui est la régression en l'espace d'une dizaine d'années de l'espérance de vie qui a perdu quasiment 15 ans en Russie. En Russie, oui. En Russie, ça a été épouvantable. Et qu'est-ce que démontrait là, mais in situ sur le terrain, incontestablement les conseillers néolibéraux, c'est que le capitalisme même ne s'identifie pas au marché des théoriciens et qu'il ne saurait marcher sans son appareillage institutionnel et, alors là je vais dire le gros mot absolu, sans un État. Faute de quoi, en effet, c'est ce que Marx appelait l'anarchie du marché et l'accumulation primitive.
Il aura fallu 28 ans pour voir cela, une pelleteuse qui entame un mur que l'on croyait indestructible. Une construction laide fichée dans le cœur du monde libre. Même tard dans la nuit, les Berlinois sont venus nombreux. Ils sont venus voir pour y croire.
Il faut voir qu'il y a quand même trois aspects de cette curieuse année 89 qui semblent confirmer que la Révolution française est terminée. Il y a donc ce premier aspect qui est qu'on clôt enfin cette triste parenthèse de 150 et quelques années qui aurait été la parenthèse sociale ou de la lutte sociale, et on la clôt en musique avec le bicentenaire et le défilé de Jean-Paul Goude. Il y a quand même, quelques mois plus tard, la chute du mur de Berlin et le démantèlement du bloc de l'Est qui signifie que le dit communisme, dit réel, lui-même disparaît de la surface du globe. Donc cette révolution-là, aussi contre-révolutionnaire qu'elle ait pu être, est elle aussi terminée. Et puis il y a en septembre un événement qui passe un peu plus inaperçu, mais dont on va beaucoup parler dans les années qui suivent. C'est la première affaire du foulard ou du voile, qu'on appelle à l'époque le tchador, qui se passe au lycée de Creil, et où donc le principal du collège refuse que trois étudiantes portent ce foulard. Ça ne semble avoir aucun rapport. Ça veut dire aussi que la République, désormais, puisqu'elle n'est plus assimilée aux valeurs révolutionnaires, aux valeurs de progrès social qu'elle vient d'enterrer, aura besoin de causes à défendre pour continuer à être crédible. Elle a besoin d'un ennemi, elle a besoin d'un adversaire. Elle est en train de le trouver. Elle lui a donné le nom de communautarisme.
Trois jeunes filles musulmanes qui s'opposent à leurs professeurs et aux dirigeants du collège. Motif, elles veulent afficher en permanence les signes extérieurs de leur religion.
Je crains en Dieu. Je porte toujours mon foulard jusqu'à ma mort.
Le problème n'est pas des croyances. Le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe.
Encore ce foulard, je me demande moi si j'ai un kirka. Est-ce que ce foulard est inquiétant? Je n'ai aucun mot à dire.
Vous ne les forcez pas à porter le foulard?
Absolument pas.
Pour la première fois aujourd'hui, un mois après la rentrée scolaire, le dialogue s'est engagé entre le père des jeunes filles et le principal du collège. Un dialogue difficile qui peut-être ouvrira sur une solution.
François Cusset, on arrive au terme de ces années 80. Elles s'arrêtent quand exactement ces années 80?
Vers les 89-90.
Moi, je l'ai fait un peu durer pour faire durer le plaisir ou le cauchemar. Je l'ai fait durer jusqu'à... Oui, pratiquement jusqu'à 95. D'abord parce qu'il y a quand même les bornes chronologiques des deux septennats Mitterrand qui, pour nous, pour la France, jouent quand même un certain rôle. Parce que la deuxième cohabitation avec Balladur Premier ministre est une redite en encore plus dramatique et en encore plus libérale de la première avec Chirac. Donc il y a quand même là une logique, une cohérence. Et parce que, il me semble que s'il y a tournant, s'il y a réveil, s'il y a changement, il intervient quand même pas avant le milieu des années 90. Donc voilà, il y a de même qu'il y a un court 20e siècle, il y a de très longues années 80, puisqu'elle commence en 77 avec effectivement le tournant intellectuel, idéologique qui a lieu en France, et qu'elle s'achève, si ça se trouve, qu'en 94.
On croit acheter un livre qui dure 10 ans, et en fait c'est 18 ans, c'est quand même bien, non? Pour le même prix.
C'est-à-dire qu'en 300 pages, vous découvrez que 10 ans en valent 20, je suis désolé, mathématiquement, c'était quand même une découverte quand même.
Là, sur la chronologie, j'ai peut-être une petite divergence. Je pense qu'il y a deux dates qui sont importantes. C'est 91, parce que 91, c'est la guerre du Golfe.
We declared that the aggression against Kuwait would not stand.
Avec le Clémenceau, escorté du croiseur Colbert et de plusieurs frégates anti-sous-marins, François Mitterrand a décidé d'envoyer une des pièces maîtresses de la flotte française.
Au Koweït, l'une des urgences reste l'extinction des quelques 500 puits de pétrole auxquels les soldats irakiens avaient mis le feu avant de battre en retraite.
This is a victory for the United Nations, for all mankind, for the rule of law, and for what is right.
Et la guerre du Golfe, c'est un peu le pendant du rêve de la République du Centre. C'est l'idée d'une communauté internationale qui porterait ensemble les valeurs du droit et où les anciens clivages auraient complètement disparu. Donc ça, c'est un peu la culmination de cette idée que l'histoire s'est terminée. La fin de l'histoire, l'Union soviétique qui vote avec les États-Unis, parce que l'Union soviétique existe encore, qui vote avec les États-Unis pour imposer un ultimatum à l'Irak, qui en quelque sorte conduisent la guerre ensemble et qui rétablissent le droit. C'est presque une image merveilleuse, fantastique, évidemment.
Avec l'ingérence.
Avec l'ingérence, avec l'humanitaire, avec la fin d'une occupation ignoble, etc. Évidemment, les dizaines, voire les centaines de milliers de victimes irakiennes seront beaucoup moins détaillées dans le calcul d'ensemble. Et il me paraît que le moment où ça commence à craquer, où ça commence à grincer, c'est peut-être avant 95, je crois que c'est 92. Je crois que c'est le traité de Maastricht.
Nous venons de vivre en ce dimanche 20 septembre
l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. À l'heure où je m'exprime, en effet, il paraît certain qu'une majorité d'entre vous a approuvé le traité d'Union européenne adopté à Maastricht, que je vous ai soumis et qu'ont soutenu des femmes et des hommes dont la fermeté de conviction et le courage intellectuel l'ont emporté sur toute considération partisane.
Le traité de Maastricht, c'est quand même 49% de non. Vous avez déjà, en quelque sorte, la coalition de toutes ces élites, de la bien-pensance, de l'ordre libéral, socialiste, droite, etc., avec les médias. Et résultat, vous avez quand même 49% de gens qui s'opposent à cette pensée-là. Et à partir de 92, je pense que cet ordre libéral, en tout cas au plan intellectuel, sera un peu moins assuré qu'avant, parce qu'on aura redécouvert, y compris dans les urnes, il y a un peuple qui ne vote pas avec ses dirigeants, qui ne vote pas avec les classes bourgeoises, puisque déjà au moment de Maastricht, on s'apercevra qu'une majorité assez écrasante des ouvriers et une proportion très importante des employés majoritaires ont voté non, alors que naturellement, les professions libérales, les cadres supérieurs, en quelque sorte, la nouvelle sociologie du Parti Socialiste a massivement voté oui.
Et les électeurs n'obéissent pas forcément aux médias, à tous les cas.
Et ce qui doit être la loi des socialistes, c'est lorsque nous avons confronté nos points de vue, lorsque nous nous sommes opposés les uns et les autres, lorsque l'heure du congrès arrive, c'est l'heure aussi du rassemblement. C'est ça qui est indispensable.
Il faut la synthèse, je crois à la synthèse, ne la refusez pas. Quant à moi, j'y consacrerai d'ici demain toutes mes forces.
Mes camarades, vous vous êtes divisés au cours de ce congrès. Mais au moins, pourriez-vous rassembler sur le fait que si nous sommes tous là, nous le devons à l'action formidable de François Mitterrand.
Serge Halimi.
Sur le congrès du PS de Rennes, ce qui est intéressant, c'est que la violence des affrontements est tout à fait spectaculaire quand on considère la petitesse des enjeux. Parce qu'en fait, ce sont deux dirigeants du même courant du Parti Socialiste, du courant mitterrandiste, qui s'affrontent avec Jospin d'un côté et Fabius de l'autre. Et c'est autour d'une bataille essentiellement personnelle qui vise déjà à déterminer l'identité du successeur de François Mitterrand que cet affrontement se fait. Mais quiconque suit cette bataille à l'époque a bien du mal à déterminer quel est l'enjeu réel lorsqu'il s'agit des politiques économiques, des politiques sociales, de la politique étrangère, derrière cette violence inouïe qui se déchaîne à Rennes. Dans la décennie qu'analyse François Cusset, il y a l'événement qui ne se produit pas. Il y a un énorme renversement idéologique et l'événement qui ne se produit pas, c'est un congrès du Parti Socialiste où on en débat. Pendant toute cette période, vous n'avez pas un seul congrès du Parti Socialiste qui soit vraiment structuré par des enjeux de fond. Vous avez eu des enjeux de fond au congrès de Nantes, vous avez des enjeux de fond au congrès de Metz. En 1991, lors du congrès de l'Arche, le Parti Socialiste rompra officiellement avec la doctrine de la lutte des classes, de la rupture avec le capitalisme. Mais pendant toute cette période des années 80, lorsque le Parti Socialiste est au pouvoir, ce parti ne débat pas.
Ce qui est un peu aussi la schizophrénie, enfin je crois, du socialisme français, qui finalement ne fera jamais son aggiornamiento comme l'a fait le Labour Party anglais. Il n'y a pas de New Labour, et effectivement on pourrait imaginer qu'au terme de la décennie Mitterrand, un congrès prenne acte de ce tournant idéologique, quitte à renier un peu de son électorat à court terme. Enfin, c'est exactement la stratégie qu'a eu Blair avant d'arriver au pouvoir. Ça n'aura pas lieu, et n'ayant pas lieu, ça continuera effectivement dans deux voies complètement schizophréniques et séparées, qui est d'un côté de continuer à agiter des promesses de progrès social, de l'autre de tenir, quand on est au pouvoir, une politique et des mesures qui vont dans le sens inverse, sans jamais avouer sincèrement à ses électeurs ce qu'on est en train de faire. Donc à mon avis, la déroute électorale et sociologique de la gauche en France est liée peut-être à ce manque de sincérité.
Frédéric Lordon.
J'en remettrais volontiers une pelletée dans cet ordre d'idées sur non seulement l'évinement du débat, mais quasiment son interdiction, qui en matière de débat de politique économique a été porté à un point extrême. Il faut bien voir qu'en 1986, quand les socialistes font la déréglementation financière, ils vont profondément modifier les conditions d'exercice de la politique économique. Après la déréglementation, dont ils sont les architectes, les politiques économiques sont conduites à la face des investisseurs financiers internationaux, et non seulement à leur face, mais avec l'obligation impérative d'obtenir leur approbation. À défaut de quoi, les marchés financiers ont maintenant les moyens de déclencher des tornades monétaires contre lesquelles aucune banque centrale ne peut s'opposer, et de mettre la politique économique absolument en pièces. Donc la déréglementation a libéré des forces qui sont devenues une puissance de normalisation des politiques économiques absolument sans précédent. N'essayez même pas de sortir des clous, de nos clous, disent les marchés financiers, autrement vous terminerez déchiqueté. Alors on pourrait croire que la gauche se rebellerait contre cet état de fait. C'est tout le contraire. Non seulement la gauche l'accepte, mais elle va enseigner aux Français qu'il est bon de l'accepter. Donc voilà où nous sommes rendus. Non seulement il est décrété qu'on ne peut pas changer de politique économique, mais il est décrété au surplus qu'il n'est même pas question de l'évoquer en mots. Ça va tout de même assez loin.
Alors, François Cusset, concluons. C'était les années 80, c'était le cauchemar des années 80. Vous prolongez ce cauchemar jusqu'au cœur des années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sorti de ce cauchemar ?
J'en suis pas complètement convaincu.
Allons bon.
La blague consisterait à dire quand est-ce qu'on va sortir des années 80. Non, d'abord ce qui nous en sépare. Et je dirais que c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'un regard rétrospectif sur cette période, c'est que c'est une période désinhibée, c'est une période de discours excessifs, voire hystériques, qui disent une vérité idéologique qu'on a plus de mal à voir aujourd'hui, parce que depuis, le politiquement correct a fait son chemin. Les années 80, c'est l'époque où on dit, et tout le monde le dit, qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire et de plus érotique que le marché et l'entreprise. C'est aussi l'époque, de façon beaucoup plus anecdotique, où le mauvais goût, y compris dans le champ culturel, est mis en avant comme quelque chose de fun. C'est une époque, effectivement, où on n'a pas peur d'un certain excès, d'une certaine outrance dans le mauvais goût et dans une forme d'hystérie idéologique. Ça, c'est terminé. Je dirais presque hélas, parce que ça a le gros avantage de la sincérité et de la vérité, cette époque-là. En revanche, et ça nous en sépare aussi, c'est une époque où derrière ces discours-là, derrière cette chape de plomb quand même de la République du centre, de l'objectif unique et de la pensée unique, il y a un certain nombre de refoulés, de choses qu'on a refoulées, politiques et économiques, qui depuis quelques années, font retour. Il y a quand même des retours du refoulé. Pour aller très très vite, il y a clairement un retour du refoulé social, et je dirais classiquement social, c'est-à-dire que les experts, les sociologues et les politiques nous ont expliqué que la France voulait être gouvernée au centre, la classe moyenne était désormais sans limite, les luttes de classe avaient disparu, la conscience de classe elle-même, elle avait été remplacée par des styles de consommation. Et on voit bien que ce qui a lieu depuis une dizaine d'années, que ce soit effectivement des soubresauts sociaux liés à la défense de certains acquis, ou que ce soit une forme territorialisée, parfois ethnicisée, de la lutte des classes, comme les émeutes de banlieue en novembre 2005, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, prouve qu'effectivement, c'est en train de faire retour. Donc, on est séparés des années 80 à ce point de vue-là. D'un autre côté, alors là, pour parler très concrètement, beaucoup de choses font signe pour nous dire qu'on est peut-être encore dans les années 80. Le fait que les candidats principaux sont des produits sociologiques et psychologiques de la décennie 80. Hein. Et puis, on se dit quand même qu'il a fallu les années 80 et cette entreprise de brouillage des catégories politiques classiques, des polarités politiques, du discours politique, cette espèce de grand relativisme où tout est dans tout, pour croire que François Bayrou et Ségolène Royal sont candidats de gauche, et pour croire que Nicolas Sarkozy représente la France profonde. Donc on a un peu l'impression, si vous voulez, dans ce pays si subtil politiquement, qu'on en est un peu à la politique pour les nuls. Et ça, ça me paraît être un effet de la dépolitisation des discours et des raisonnements initiés pendant les années 80.
Serge Halimi.
Il est certain que le climat intellectuel n'est pas du tout le même. Que la critique de l'ordre libéral est beaucoup moins marginale. Maintenant, on a presque l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, alors que dans les années 80, on l'a évoqué précédemment, des livres comme ceux de Guy Hockenheim ou le livre sur la deuxième droite de Janover et de Garnier faisaient en quelque sorte l'effet d'une bombe, d'une révélation. Là, maintenant, tous les jours, vous avez un nouveau livre qui vous explique que le libéralisme n'est pas l'avenir du monde. Donc là, il y a un changement qui est significatif. Le problème, c'est que le libéralisme s'est tellement installé à travers les structures économiques, à travers le personnel politique, à travers l'ordre social, que même s'il n'est plus hégémonique au plan intellectuel, eh bien, il peut continuer sa course.
Frédéric Lordon, sorti du cauchemar ou pas ?
Il y a une archive qui nous a manqué d'une certaine manière. C'était celle de Jean-Pierre Gaillard. Je veux dire, elle est énorme. Il rentrait dans la mémoire sonore, cet homme-là. Il est quand même extraordinaire. Alors lui, il passe sur toutes les époques. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, immortalisé par les Guignols. Enfin, vous vous souvenez, c'était extraordinaire. C'est le marché à la Gaule, le marché n'en peut plus, le marché va jouir. Ça y est, le marché a joui. C'est vrai que Jean-Pierre Gaillard, il a dû avoir quand même de sacrées notes de pressing. Hein, mais...
Vous le voyez, le marché est en pleine forme. Bien sûr, ce matin, le marché s'est réveillé avec une demi-molle. Mais croyez-moi, en fin de séance, il avait une belle gaule. Le marché n'a pas besoin de développeurs. Il n'a pas besoin de gingembre ni de poudre de rhinocéros. Le marché a le gourdin et il vous le met profond. Champion Gaillard, Bourse de Paris.
Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière tout ça? Il y a que... on voit à l'œuvre ce travail de perméabilisation, d'imbibition, d'imprégnation de la société française par les valeurs directrices du capitalisme, à savoir les valeurs de l'argent et de la cupidité. D'où l'explosion des magazines consacrés au placement, à la finance, à l'argent, le supplément épargne et argent du monde. Un magazine qui sponsorise je ne sais plus quelle chaîne qui s'appelle Mieux vivre son argent. Il faut croire donc qu'être très riche, ça pose un certain nombre de problèmes existentiels. Et en même temps, la société française, d'une certaine manière, résiste à tout ça. Elle ne se laisse pas complètement embobiner. En tout cas, on n'en est plus à cette période du milieu des années 80 où, on l'a écouté lors d'une tranche précédente de discussion, on avait droit à ces émissions, je ne me souviens plus comment elles s'appelaient, c'était Action ou quelque chose comme ça.
Ambition.
Aussi, ambition, voilà, qui nous faisait une pédagogie active du désir d'enrichissement. Et chaque fois que la société française résiste de cette manière, je suis pris entre deux sentiments contradictoires. Le premier qui est d'être tout à fait ému par ce petit miracle, et le second qui est une angoisse qui me saisit l'instant d'après, à me dire, mais finalement, ce miracle-là, combien de temps va-t-il durer encore? Et après la période des commencements héroïques, où effectivement, on pouvait vanter les charmes de l'Eldorado libéral tant que celui-ci n'avait pas encore produit ses effets réels. Une décennie ou une décennie et demie plus tard, on commence à en voir les conséquences en vraie grandeur. Et pendant qu'il voit que le marché jouit, le salariat, lui, en bave des ronds de chapeau. Alors évidemment, ça lui donne un regard tout à fait différent sur toutes ces choses. Et je repense à un autre événement qui est aussi symptomatique parce que, appartenant à cette décennie des années 80, en étant tout à fait caractéristique, il est en même temps le germe d'une dynamique qui va être littéralement explosive dans les années 90 et surtout dans les années 2000, c'était la grève des Peugeot en 1989. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette grève avait été déclenchée par le fait que Peugeot refusait une augmentation même misérable de salaire à ses employés, alors même que, révélation du canard enchaîné oblige, Jacques Calvet, son patron de l'époque, s'était octroyé, lui, un généreux, je ne sais plus si c'est 15 ou 20%. Mais à l'époque, son salaire à lui plafonnait à, dans des, je sais pas, 100 000 francs par mois, 15 000 euros par mois. Hein, Et alors après, on a vu ça, alors, mais attendez, c'est un pauvre type rapporté aux standards de notre époque, hein, si vous voulez, avec 15 000 euros par mois, où est-ce qu'on va? Et on a vu les chiffres monter, exploser, on pourrait faire la courbe. En 1995, le patron de Carrefour, M. Bon, part avec un golden parachute de 20 millions de francs. Déjà, c'est beaucoup mieux. 4 ans plus tard... Monsieur Jaffré, qui vient de se faire désosser par Total et qui a perdu la présidence d'Elf, part néanmoins avec, non plus 20 millions, 200 millions de francs. Voilà qui va mieux. Et en 2005, 2006, 2007, etc., on reste dans l'ordre de la centaine de millions, sauf que des francs, on est passé aux euros. Donc vous voyez, là, effectivement, c'est le propre de la société capitaliste telle qu'elle est entièrement sous pilotage de la finance. Il s'y opère une redistribution des revenus incroyablement polarisée, et le spectacle d'une richesse croissante pour un tout petit nombre, au regard des détériorations des conditions matérielles d'existence du plus grand nombre, produit des effets qui sont de plus en plus difficiles à accommoder par la société capitaliste, laquelle ne tient qu'avec des régulations auxiliaires que, pour faire simple, on pourrait résumer de la manière suivante, TF1, la police et le Lexomil. Bon, alors, ça fait quand même une trajectoire soutenable, mais difficilement. Alors, qu'en tirer comme conclusion? C'est que, évidemment, là, il semble qu'avec cette dégradation fondamentale de la répartition du revenu et la détérioration des conditions d'existence des gens, on a une sorte de force de rappel, tout de même, qui un jour devrait... finira peut-être par produire ses effets. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on la paye au prix fort? C'est pas un horizon politique tout à fait rieur, mais malheureusement, c'est le nôtre pour l'heure, par défaut d'une incapacité des forces réellement de gauche à s'organiser, à se restructurer et à reconstituer une offre politique qui ne soit plus social-libérale.
Serge Halimi.
Oui, je pensais en écoutant Frédéric Lordon nous donner l'évolution en quelque sorte des rémunérations patronales au discours qui justifiait et qui continue de justifier cette escalade permanente. Et c'est le discours de la concurrence, ou plus exactement le double discours de la concurrence. C'est les patrons français qui expliquent qu'ils ne peuvent pas être moins payés que les patrons américains, et au même moment, les patrons français qui expliquent à leurs ouvriers qu'ils ne peuvent pas être plus payés que les ouvriers chinois ou vietnamiens. Et l'extraordinaire, c'est que souvent, ce sont les mêmes personnes qui tiennent ce discours au même moment à deux groupes tout à fait opposés, dont les écarts de revenus, évidemment, ne cessent de se creuser. Et lorsqu'on fait des sondages internationaux qui valent ce qu'ils valent, on constate que parmi une vingtaine de pays dans le monde, la France est le seul pays où le capitalisme libéral soit minoritaire, où il y a une majorité de la population qui estime que ça n'est pas un bon mode de régulation de la vie économique et sociale. Et c'est ce qui...
Pourtant, les Gogues ne manquent pas et n'ont pas manqué.
C'est ce qui justifie ce discours qu'on entend un peu partout. Je l'entendais d'ailleurs sur France Inter il y a quelques jours, sur le thème des Français qui ne comprennent rien à l'économie,
voilà,
parce qu'ils ne sont pas...
Voilà ce qu'on coupe dans les
montages. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, l'une des grandes continuités des années 80 et des années 90, c'est ce démon de la pédagogie. On l'a déjà vu dans une tranche précédente, mais je trouve que c'est un caractère extrêmement profond des nouveaux rapports de pouvoir. C'est-à-dire que les dominants pensent rendre légitime leur domination plus seulement du simple fait de l'exercer, mais désormais en l'expliquant aux dominés. Alors le mot d'ordre, c'est si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes en colère, c'est que vous n'avez pas bien tout compris, mais on va vous expliquer. Alors on explique inlassablement. C'est vraiment extraordinaire. On commence par les enfants, qui sont les cerveaux les plus malléables, ce qui a donné lieu à la floraison d'un genre littéraire à part entière, qui est le bidule expliqué à mon fils ou à ma fille. Qu'est-ce qu'on n'a pas expliqué à mon fils ou à ma fille? C'est fantastique. On les bassine, ces pauvres gosses. Donc le racisme, c'est mal. Le christianisme, c'est bien. La charité humanitaire, c'est très bien.
L'Europe
et l'économie de marché, c'est indispensable. Et les politiques s'y sont mis. Ils sont devenus d'extraordinaires pédagogues. Et on a tous le souvenir de cet immense moment de pédagogie politique qui a été la campagne du traité constitutionnel européen en 2005. Sauf que cette fois-ci, pas de bol, c'était en ZEP. La classe était turbulente. et les gamins des cancres. Mais qu'à cela ne tienne, on ne va plus attendre simplement la période des examens. Désormais, c'est contrôle continu. Donc, on va masser la bête en permanence. Alors, on crée des comités ad hoc. Alors, il y en a un qui est particulièrement merveilleux, qui s'appelle le CODIS, qui est le comité pour la diffusion de la culture économique et qui a explicitement pour tâche, je cite, de réconcilier les Français avec l'économie. Il faut donc croire qu'ils étaient fâchés. Et le CODIS a exposé très récemment un certain nombre de préconisations, dont je garde la plus croustillante, qui est, vous l'aurez noté, formulée par Éric Orsenna, ancien membre de cabinet socialiste, qui se présente lui-même très modestement comme écrit
du conseil de surveillance de Vivendi.
Absolument, et qui nous dit la chose suivante, puisqu'il faut masser des esprits, il faut commencer à l'école. Je cite, « Tout enseignant doit avoir une connaissance de la réalité économique. Ce qui importe, c'est que les profs connaissent et aiment l'entreprise. Qu'ils la connaissent à la limite, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut qu'ils l'aiment. Si on ne connaît pas l'entreprise, évidemment, elle paraît menaçante. En fait, l'entreprise n'est ni de droite, ni de gauche. Amen. »
François Cussel, le mot de la fin.
Je voudrais poser une question un peu saugrenue, c'est de savoir si ces contradictions-là que décrivent très bien mes deux camarades ne vont pas en France et pas ailleurs provoquer, si vous voulez, une fracture, un mouvement social, quelque chose qui pourrait se passer dans les mois ou les années à venir, qui ne peut pas se passer ailleurs, peut-être parce que le travail de greffe du système libéral sur la vieille société française a été mal fait, n'a pas été complètement fait, que cette greffe n'a pas pris, qu'elle s'est faite de façon un peu contradictoire, que les années 80, ça n'est pas que le marché, mais c'est aussi un sursaut républicain ou républicaniste, un discours de foi dans l'État, et donc qui renforce une sorte de dépendance psychologique ancestrale des Français vis-à-vis de l'État, alors même que l'État, non seulement ne peut pas tout, comme disait Lionel Jospin, et ça lui a valu sa carrière politique, en gros, mais si ça se trouve, ne peut plus rien. Et donc, si vous voulez, il y a différents phénomènes contradictoires qui font qu'en France, des attentes et des barrières de sécurité existent encore, qui font que cette effectivement hystérie libérale que décrivent et dénoncent bien mes camarades pourrait provoquer un mouvement social tout à fait désordonné, lié aussi effectivement aux banlieues, à la question ethnique, sociale, etc., qui, lui, sera incontrôlable. Moi, je serais là plus optimiste, si on peut parler d'optimisme, devant l'imminence d'un tremblement de terre. Mais je pense que la greffe libérale n'ayant pas pris et les candidats actuels à l'élection ayant en commun de vouloir réussir tardivement par des méthodes un petit peu curieuses cette greffe, ils pourraient réunir les conditions pour effectivement un mouvement social. Donc voilà, je dirais qu'il y a une atmosphère crépusculaire à beaucoup d'égards, ou qui sent un peu l'extrême fin, un peu rance des années 80, et en même temps, pas mal de signes que tout ça peut bouger, et bouger beaucoup plus vite que ne le croient les pessimistes.
Voilà, c'est des propos tenus en 2007, hein, il y a 4 ans. dans La Basse, j'y suis, par François Cusset, et par Serge Halimi, et par Frédéric Lordon. Voilà, c'est ainsi que finit cette série, La Décennie, le cauchemar des années 80, qui avait été préparé à l'époque par Renaud Lambert. Toute une série de bouquins à lire sur ce sujet, Le Grand Bond en arrière de Serge Halimi, Fonds de pension, piège à compte, Frédéric Lordon, D'une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française de Didier Héribon aux éditions Léo Cher, et puis évidemment Lettre ouverte à ceux qui sont passés, Nicole Mao, Rotary de Guy Hockenheim aux éditions Agone, et puis beaucoup d'autres bouquins sur ce thème. Voilà pour cette série. Nous allons partir dès lundi ou mardi pour la Grèce désemparée, à l'avant-garde du pire, mais nous allons passer par la Sardaigne pour nous rendre en Grèce avec Pascal Pascariello. Écoutez quelques extraits.
Chiede al popolo che sta dimostrando di fronte al palazzo che si rivolga.
Voilà, c'est en Sardaigne, l'île enchantée avec ses plages, ses palaces et ses bergers et son 1 600 000 habitants, mais 34% de chômage chez les jeunes, 18% de chômage moyen chez les chiffres officiels, des tas de problèmes qui sont assez proches de ceux qu'on rencontre en Italie, en Espagne, au Portugal et qu'on rencontrera également en Grèce, mais dans la version sarde demain. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. C'est Renan Mahé et Martin Guénard qui étaient de la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grigory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.